Bonsoir à tous. Donc nous allons terminer ce jour le cours sur l'eschatologie paulinienne. Bien sûr, nous sommes loin d'avoir tout dit sur le sujet, mais ce cours avait pour but de nous introduire dans cette problématique de l'eschatologie paulinienne. Alors, je vous propose d'une part de récapituler ce que nous avons appris et vu en étudiant les deux épîtres aux Thessaloniciens, également la première épître aux Corinthiens au chapitre 15, ainsi que les deux épîtres à Timothée. Et d'autre part, il s'agit de mettre cet ensemble de textes et les thèmes eschatologiques qu'ils renferment en regard avec ce même type d'enseignement que nous trouvons dans les synoptiques. En effet, ils ont des éclairages différents sur certains points, mais tous les synoptiques et les épîtres pauliniennes, comme nous le savons, se fondent sur la parole du Seigneur Jésus-Christ. Saint Paul l'affirme avec netteté, nous l'avons déjà vu, et il en est de même en Matthieu 24, 25, Luc 21 et Marc 13, où c'est le Seigneur lui-même qui parle d'ailleurs. On va s'intéresser ce soir, pour mettre en relation l'apocalyptique synoptique et les épîtres de Paul, on va s'intéresser tout particulièrement à Matthieu 24, sans exclure bien sûr les autres parallèles que nous pouvons trouver dans les deux autres synoptiques, à savoir Marc et Luc, et mettre toujours en résonance ces deux types de textes, ceux des synoptiques et ceux des épîtres pauliniennes que nous avons étudiés. Donc le 24e chapitre de saint Matthieu s'ouvre sur la prophétie du Christ concernant la destruction du temple. Cette prophétie est immédiatement suivie de la question que les apôtres posent à Jésus. Ainsi comme les disciples sont admiratifs, comme nous le dit Marc 13, comme les disciples sont admiratifs devant cette masse imposante du second temple, celui d'Hérode, qui, je le rappelle, n'était pas encore achevé, Jésus prend la parole et il dit « Vous voyez tout cela, n'est-ce pas ? Amen, je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre, tout sera détruit. » En vérité, c'est une parole vraiment inimaginable si l'on veut bien ne pas oublier le contexte dans lequel elle est prononcée. Contexte eschatologique qui concerne la fin du présent siècle, l'avènement du Christ en gloire et donc la venue du jugement, puisque l'avènement et le jugement sont intimement liés. Alors, il faut rappeler aussi autre chose, c'est que la destruction du temple signifie la fin du culte d'Israël, puisque le temple est en vérité l'unique lieu de culte pour Israël. Les synagogues qui sont dans Jérusalem et en Judée, qui sont répandues un peu partout, ne sont seulement, si je puis me permettre d'employer ce mot, des lieux de prière, des lieux où on lit la Torah et où on l'interprète, où on lit les prophètes, et des lieux d'étude de la loi du Seigneur. Mais le lieu de culte, le centre du culte proprement dit, c'est le temple à Jérusalem. Alors, assis au mont des Oliviers, Jésus prononce ces paroles que je viens de citer en regardant vers le temple. Et il est dit dans le texte, les disciples s'avancèrent vers lui à l'écart et lui dirent, dis-nous quand cela arrivera et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Je ferai d'abord, avant d'aller plus loin, une remarque sur ce début de chapitre. Ces paroles du Christ, comme nous le voyons, sont extrêmement concises, mais pour autant elles renferment un enseignement très profond. Dans le contexte, comme je l'ai déjà dit, où cela apparaît surtout en Marc, où l'un des disciples relève l'impressionnante dimension des pierres et des constructions, que fait Jésus ? Eh bien, il oppose une prophétie qui, si on y réfléchit un peu, est vraiment terrible. Terrible pour les Judéens. Une prophétie qui implique un changement vraiment radical de perspective. L'ouverture du jugement, l'avènement du Fils de l'homme, qui commence par la destruction du centre du culte d'Israël, le temple de pierre, comme nous le savons par l'Évangile, devant céder la place au temple non fait de main d'homme. Alors il faut se rappeler que ce thème de la destruction du temple, il est loin d'être absent des textes de l'apocalyptique juive. J'en veux pour preuve le deuxième psaume d'un recueil de 18 psaumes qu'on appelle les psaumes de Salomon. Je le rappelle à ne pas confondre avec le psautier liturgique que nous avons, les psaumes de David. Je cite, alors attendez, c'est les versets 1 et 2 du deuxième psaume de Salomon. Dans son orgueil, le pécheur a renversé les remparts fortifiés pendant la fête, et toi, tu ne l'as pas empêché. C'est à Dieu que ça s'adresse. À ton autel sont montées des nations étrangères qui, par orgueil, l'ont foulé de leurs chaussures. Et plus loin, donc au verset 5, il est ajouté « La glorieuse splendeur de Jérusalem fut devant Dieu regardée comme rien, objet d'un total mépris. » Alors vous voyez donc, il y a cette thématique de la destruction du temple qui est présente dans ce texte, mais dans les textes de l'apocalyptique juive, si le temple doit être profané, voire détruit, il est non moins certain que ce qui est visé dans ces textes, ce sont ceux qui sont la cause de la destruction qui est attendue. Et le relèvement du majestueux édifice, et au-delà de l'édifice cultuel proprement dit, de Jérusalem. Hein. Jérusalem qui, à plusieurs reprises, a été livrée à des armées d'invasion. Hein. Souvenez-vous ce qui est dit dans la finale du psaume 50. Alors seront relevés les murs de Jérusalem. Bon, là, c'est dans un contexte différent, mais ça montre bien ces choses-là. Par contre, contrairement aux textes de l'apocalyptique juive, ils sont très nombreux ces textes, mais on ne peut pas les citer tous, bien sûr, mais ils valent la peine d'être étudiés. Ça éclaire beaucoup notre compréhension. On chercherait ici, en Matthieu 24, on chercherait en vain une telle perspective. Il y a bien la prophétie du Seigneur sur la destruction du temple, mais ceux qui sont la cause de la destruction ne sont pas dans ces paroles. Et puis, le relèvement de l'édifice n'est pas attendu. Il n'y a pas la moindre allusion à une quelconque idée du rétablissement de ce temple. Parce qu'avec le Christ vient le temple non fait de main d'homme. Donc ce temple, il a fait son temps, si je puis me permettre de parler ainsi. D'ailleurs, les paroles que le Christ prononce dans cette prophétie et que Matthieu rapporte, bien, ces paroles lient cette destruction de l'édifice au commencement des douleurs elles-mêmes annonciatrices de la fin des temps. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bien, ça veut dire que cette destruction, elle est dans le dessein de Dieu. Ceux qui vont détruire ce second temple ne seront que les instruments de l'accomplissement du plan de Dieu. Bien sûr, ils ne le seront pas, mais ils seront les instruments de l'accomplissement du plan de Dieu. Ça arrive souvent que des hommes accomplissent comme ça le dessein de Dieu sans en avoir conscience. Souvenez-vous des paroles prophétiques de Caïphe au moment de la passion du Seigneur. Autrement dit, ça veut dire que cette destruction, elle n'est pas à mettre au bénéfice des aléas de l'histoire des hommes, mais elle est à considérer dans une perspective radicalement différente. Elle est à considérer du point de vue de Dieu et de son dessein de salut pour les hommes. Je pense qu'il faut aussi y voir, en filigrane, tout ce qui est annoncé dans l'Évangile sur la fin du culte aaronique et le nouveau culte en esprit et en vérité dont il est question dans l'Évangile de Saint Jean. Alors ce lien entre la prophétie de la destruction du temple et le commencement des douleurs qui sont annonciatrices de la fin, eh bien, ce lien, il est sans doute bien compris par les disciples, puisque ceux-ci ne cherchent pas à connaître le pourquoi du comment, mais posent la question « Dis-nous quand cela arrivera, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Donc, les disciples font ce lien. Ils se posent la question de savoir quand cela arrivera, à quel moment, le signe, Tosemeion, quand ce signe, le signe de l'avènement, arrivera, puisque ce signe de l'avènement sonnera la fin du monde. Une remarque, c'est que ce signe ne se dévoile pas selon un mode de connaissance rationnel ou selon l'évidence expérimentale. Mais ce signe se dévoile avec l'intelligence de la foi. D'ailleurs, dans tous les signes que le Seigneur accomplit dans l'Évangile, c'est bien l'objectif, c'est éveiller l'intelligence de la foi. Il s'agit là de discerner ce qui va arriver en se fondant sur la parole du Seigneur. Et la réponse de Jésus va dans ce sens, puisqu'il énumère un certain nombre d'éléments caractéristiques de ce temps qui doit s'accomplir dans la fin. Quand on parle de fin, c'est la fin de la présente économie du monde, bien sûr. Mais n'allons pas trop vite. Quel sera le signe de ton avènement ? En fait, le texte grec dit « Keti to semeion, tes sen parousias, ke synteleias tu aionos. » Quel sera le signe de ta venue et de l'achèvement du monde ? Nous avons vu que, comme ici en Matthieu 24, 3b, le terme de parousia, qui signifie présence, avènement, venue, parousie, terme qui est repris tel quel en langue française, il est lié à l'achèvement des siècles. Et on a vu en étudiant la première épître de saint Paul aux Thessaloniciens qu'il est présent en 2.19, en présence, je cite, en présence de notre Seigneur Jésus-Christ, lors de son avènement. On le trouve également donc dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15. Et donc ce terme de parousia est lié à la venue du Christ Jésus dans la gloire. Et évidemment, comme cela a déjà été dit dans le cours, c'est d'elle dont il est question ici. Puisqu'il y a deux avènements, je rappelle, le premier se fait dans l'abaissement, dans la kénose, car le Fils de l'homme s'abaisse jusqu'à nous pour le salut du genre humain. Je rappelle également que « Fils de l'homme », c'est un titre messianique. On le trouve dans la prophétie de Daniel. Si le premier avènement se fait dans l'abaissement, le second avènement vient dans la gloire, précédé des anges au son de la trompette. Enfin, il y a tout un tas d'éléments dans cette scène apocalyptique que l'on trouve dans les épîtres de saint Paul et en particulier aux Thessaloniciens. Et le fait que le Seigneur apparaisse dans sa gloire sonnera la fin de l'économie présente du monde. Mais immédiatement, au verset 4 du chapitre 24 de saint Matthieu, Jésus appelle ses disciples à la vigilance. De quelle manière le fait-il ? Il dit « Prenez garde que personne ne vous égare ou ne vous séduise. » Planao, c'est bien égaré, mais on peut aussi traduire ce verbe par séduire dans le contexte, puisque c'est précisément le rôle des faux Christ de tromper, d'égarer, de séduire ceux qui les écoutent. Et après cet appel à la vigilance, le Seigneur énumère des choses devant advenir à la manière dont surviennent les douleurs de l'enfantement de la femme au travail. Alors je fais un second rappel ici. Ici sont liés trois signes. Destruction du temple, fin du monde, venue du Fils de l'homme. Le verbe égarer, séduire, peut revêtir plusieurs significations, bien sûr. Par exemple, nous avions déjà vu l'an dernier, en étudiant les épîtres de saint Jean, les mises en garde contre ceux qui nient le Fils de Dieu. Quiconque nie, je cite, « quiconque nie le Fils ne possède pas non plus le Père ». Première épître de Jean, premier chapitre, verset 23. Cette négation vient à la suite d'une séduction de ceux qui s'opposent au Christ. Dans l'Apocalypse, la séduction, qui est la source de l'égarement en fait, hein, on est séduit et on s'égare, est assimilée à une prostitution. Apocalypse 2, 20. Par son enseignement, elle, et c'est de Jézabel dont il s'agit, mais c'est pas la Jézabel de l'Ancien Testament, hein. Elle induit mes serviteurs à se prostituer en mangeant des viandes immolées aux idoles. Et d'une manière plus générale, dans l'Écriture sainte, les séductions et l'égarement qui en résultent peuvent être de nature politique, doctrinale, diabolique. Donc elle joue sur plusieurs registres. Et le Seigneur poursuit, « Ego eimi o Christos, moi je suis le Christ, le Messie, et ils séduiront ou égareront bien des gens. » En effet, parce que doit se produire toute une série de faux messies qui sont destinés à tromper, car leur maître est Satan, et Satan, pour avancer, agit toujours avec deux armes. La première, c'est la dissimulation. La deuxième, c'est la tromperie. Il ne peut pas en être autrement, parce que si Satan se présentait directement avec toute la laideur de son vrai visage, personne n'aurait envie de le suivre. Donc, il agit par dissimulation et par tromperie. Et on peut même dire, d'ailleurs, que il triomphe lorsqu'on nie son existence. Parce que là, il peut agir à sa guise. Autant le Seigneur veut être reconnu, connu et adoré, en pleine lumière, autant lui, il triomphe, lui, Satan, il triomphe lorsque on va jusqu'à nier son existence. Ceux qui nient son existence sont en fait ses prisonniers. Autre image que l'on trouve dans ce chapitre 24, les douleurs de l'enfantement. Là, bien sûr, c'est une image saisissante qui est fréquente, hein, dans l'Écriture sainte, Nouveau Testament, Ancien Testament. On a vu, on l'avait trouvé déjà chez saint Paul dans ses épîtres. On la trouve aussi, je le rappelle, dans un oracle sur la destruction de Babylone, dans la prophétie d'Isaïe, où il est dit « Gémissez, car le jour du Seigneur est proche, il vient comme un ravage du Tout-Puissant. C'est pourquoi toutes les mains s'affaiblissent et tout cœur d'homme est abattu. Ils sont frappés d'épouvante, les spasmes et les douleurs les saisissent. Ils se tordent comme une femme en travail. » Alors, ce thème des douleurs de l'enfantement, justement, il est là bien à sa place. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il est lié avec l'idée de soudaineté. Comme en 1 Thessaloniciens 5, lorsque Paul exhorte à la vigilance en attendant l'avènement du Seigneur, je cite, « Vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur arrive comme un voleur en pleine nuit, quand les hommes se diront paix et sécurité, c'est alors que tout d'un coup fondra sur eux la perdition, comme les douleurs sur la femme enceinte, et ils ne pourront y échapper. » Donc c'est inéluctable, ça surgit avec soudaineté. Ainsi paraîtra donc la venue dans la gloire du Seigneur Jésus. même, nous allons voir un peu plus loin, même si cette venue doit être doit être préparée par des événements annonciateurs. Nous l'avions déjà vu, hein, dans la deuxième épître de saint Paul aux Thessaloniciens. Autre signe dans la suite des paroles du Seigneur en Matthieu 24, vous allez entendre parler de guerre et de rumeurs de guerre, c'est au verset 6. Attention, ne vous alarmez pas, il faut que cela arrive. Il faut que cela arrive, donc c'est inéluctable. Mais, et le verset ajoute, mais ce n'est pas encore la fin. On est là encore en présence du thème du dessein de Dieu. Tout s'accomplit selon le dessein de Dieu. Tous ces événements obéissent à un plan divin et non à une volonté d'homme. Dans la prophétie de Daniel, d'ailleurs, à propos des songes du roi, le prophète justement explique à Nabuchodonosor son songe en disant ces paroles. Je cite, « Le roi prit la parole et dit à Daniel qu'on nommait Belshazzar. Es-tu, c'est le roi qui parle, es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication ?» Daniel répondit en présence du roi et dit, « Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nabuchodonosor ce qui arrivera dans la suite des temps. » C'est en Daniel 2, versets 26-28. Et remarquez que c'est très exactement ce que fait le Christ vis-à-vis de ses disciples en leur révélant les événements annonciateurs de la fin des temps, une série d'événements annonciateurs de la fin des temps. Donc il leur dit, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, si cruels que soient ces événements, parce qu'ils le sont réellement, cruels. Hein, ils sont à venir, mais ils sont cruels. Pourquoi ne pas s'inquiéter? Parce qu'ils sont inéluctables. Guerre et rumeurs de guerre, nation contre nation, royaume contre royaume, famine, tremblement de terre, iniquité croissante, à la suite de quoi l'amour du grand nombre se refroidira, comme il est dit au verset 12a. En somme, rien ne peut s'opposer à la survenue de tels événements. Pas même la fausse paix des hommes dont parle 1 Thessaloniciens 5, que j'ai cité, car ils sont liés à ce qui précède le second et glorieux nouvel avènement et le jugement du monde. Le caractère inéluctable est affirmé, donc rien ne peut s'y opposer. Tous les calculs et des plans des hommes seront déjoués, car Dieu en a décidé ainsi. La question centrale, évidemment, c'est d'être prêt, comprenez bien, puisque ces événements, la survenue de ces événements nous échappant complètement, eh bien, par contre, ce qui nous concerne directement, c'est le fait d'y être prêt. Et le texte poursuit, « Alors on vous livrera à la détresse », autre terme employé par saint Paul. Et vous serez haïs de tous les païens à cause de mon nom. Et alors un grand nombre succomberont, ils se livreront les uns les autres, ils se haïront entre eux. Et là on peut penser qu'il s'agit non pas de tous les hommes, mais de ceux qui disent « suivre le Seigneur ». Alors un grand nombre succomberont, c'est-à-dire que c'est l'apostasie qui est derrière ça. Hein? L'apostasie dont parle Saint Paul dans la deuxième épître au titre des événements qui annoncent la venue du Seigneur, l'apostasie, l'antichrist, tout ça, bon, on en a parlé déjà. Et là, bien sûr, le grand nombre qui succombe, c'est... Il succombe à quoi ? Il renonce à la foi, il apostasie la foi. On peut aussi, je pense, mettre ce verset 9 du chapitre 24 de saint Matthieu en parallèle avec la seconde épître de Timothée, au troisième chapitre, où saint Paul met son disciple en garde contre les périls des derniers temps. Je cite, « Dans les derniers jours, surviendront des moments difficiles, les hommes en effet seront égoïstes, cupides, vantards, orgueilleux, diffamateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, sans cœur, implacables, médisants, intempérants, intraitables, ennemis du bien, délateurs, effrontés, aveuglés par l'orgueil, plus amis de la volupté que de Dieu. » 2 Timothée 3, verset 1-5. Et autre signe, parmi les plus importants, celui des faux prophètes qui surgiront en foule et égareront beaucoup d'hommes. C'est au verset 11 du chapitre 24. Faux messies, faux prophètes, faux docteurs. En 2 Timothée, la parole de saint Paul, on retrouve tout cela... en 2 Timothée, et c'est une preuve supplémentaire que la parole de saint Paul se souche sur celle du Maître telle qu'elle nous est donnée, par exemple en Matthieu 24, Marc 13 et Luc 21. J'ai dit et répété que tout ce qui est dit par saint Paul se fonde sur une parole du Seigneur. D'ailleurs, c'est lui-même qui le dit. Hein. C'est pas une déduction que je fais, c'est lui qui le dit. Et donc, partout dans le Nouveau Testament, c'est le même enseignement, puisque tout procède d'une parole du Maître. Autre signe également, et non des moindres, avant la fin, la bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier. Tous les païens auront là un témoignage. Et puis, il y a le thème de la persécution, au verset 9 que j'ai cité, que l'on retrouve dans la deuxième à Timothée, 3:12. Tous ceux qui veulent vivre avec piété dans le Christ Jésus seront persécutés. Tous ceux qui veulent vivre avec piété dans le Christ Jésus seront persécutés. La section suivante de ce chapitre 24, qu'on peut diviser en trois sections, avec les parallèles qu'on trouve en Marc 13 et Luc 21, concerne la grande tribulation et l'avènement du Fils de l'homme. Alors, il est dit, « Quand donc vous verrez installer dans le lieu saint, l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, que le lecteur comprenne. » Alors là, cette incise nous renvoie également à l'intelligence de la foi. Alors ceux qui seront en Judée, qu'ils fuient dans les montagnes, et suit dans ce verset tout un ensemble d'avertissements. Pas même la Judée n'échappera à ce qui doit advenir. Le pays de la promesse lui-même n'échappera pas à ce qui doit advenir. Une suite de malheurs. Celui qui sera au champ, il est-il dit, qui ne se retourne pas en arrière. Malheur aux femmes enceintes ce jour-là. Malheur à celles qui allaiteront ces jours-là. Autant, bon... Tout ça, ce sont des signes accumulées qui soulignent la grande détresse qui s'annonce. Et cette expression de grande détresse, on la retrouve telle quelle dans l'Apocalypse, comme nous l'avons déjà vu. Cette détresse, elle n'est pas à prendre à la légère, elle est véritablement grande et elle est terrible en même temps, au point que, il est dit au verset 22 du chapitre 24, « Et si ces jours-là, renvoient à la grande tribulation qui précède l'avènement, et si ces jours-là n'étaient abrégés, aucune chair ne serait sauvée, mais à cause des élus, ces jours-là seront abrégés. » Vous voyez jusqu'où ça va. Hein. Aucune chair ne serait sauvée, mais à cause des élus, ces jours-là seront abrégés. Alors, le Seigneur, en vertu de la vigilance dont doivent faire preuve ses fidèles, dit qu'il est impératif de ne pas écouter les faux messies, de ne pas se laisser séduire ou égarer, encore ce terme qu'on retrouve, car en effet, est-il dit au verset 24, chapitre 24, verset 24, car en effet, de faux messies et de faux prophètes se lèveront et produiront des signes formidables et des prodiges, au point d'égarer, s'il était possible, même les élus. Et en 2 Thessaloniciens, l'impie, l'homme liche de Satan, le fils de la perdition, eh bien, il nous est dit que lui aussi, il accomplira des œuvres de puissance, des signes et des prodiges mensongers, comme d'ailleurs le fera la bête dans l'Apocalypse. Donc là, il s'agit, dans le récit d'Apocalypse 13, il s'agit de la seconde bête, celle qui est sortie de la terre. La première bête sort de la mer. La seconde de la terre, et la bête de la terre demande que soit adorée la première bête, et d'ailleurs les adorateurs de la bête seront marqués du signe de la bête. C'est presque beaucoup de siècles avant notre moderne RFID que l'on veut implanter sur les humains, le signe de la bête. Il est dit donc que cette seconde bête accomplit de grands prodiges jusqu'à faire descendre du ciel aux yeux de tous un feu sur la terre. Elle séduit les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui est donné d'accomplir sous le regard de la bête. Il s'agit de la première, celle qui est sortie de la mer et qui est une émanation du dragon. La deuxième partie, donc après cette énumération d'événements devant advenir et l'appel à la vigilance, la deuxième partie de cette deuxième section du 24e chapitre de saint Matthieu concerne l'avènement du Fils de l'homme. Et il y a une reprise au verset 26 de ce que l'on trouvait déjà au verset 23, reprise également de ce thème si important de l'imprévisibilité de l'événement, de sa soudaineté, l'imprévisibilité et la soudaineté de la seconde venue. Bien sûr, il y a des événements annonciateurs, mais nul ne connaît le jour. C'est le jour du Seigneur, ce jour dont on ne connaît pas, dont on ne sait pas quand il va venir. C'est le jour du Seigneur. C'est une autre Un autre terme extrêmement important, nous l'avons vu tout au long de ce cours, le jour du Seigneur. Un terme apocalyptique très important. Mais quant à ce jour, nul ne le connaît, pas même le Fils, est-il dit. Seul le Père le connaît. Cette soudaineté soulignée par le verset 27, en effet, comme l'éclair part du levant et brille jusqu'au couchant, ainsi en sera-t-il de la venue du Fils de l'homme. Et on retrouve une semblable description en 2 Thessaloniciens 1:8 en ce qui concerne la révélation du Seigneur, avec les anges de la puissance au milieu d'une flamme brûlante. Bon, qu'est-ce que c'est que cela ? C'est en fait l'ultime intervention de Dieu dans l'histoire du monde, dans l'histoire d'un monde qui est parvenu à son terme. Et évidemment, cette ultime intervention va provoquer un ébranlement général et considérable. Ébranlement qui est décrit dans le livre de l'Apocalypse de Saint Jean le théologien, au 6e chapitre, le verset 12, et ça concerne l'ouverture du 6e sceau. Je cite, « Les étoiles tombèrent sur la terre comme fruits verts d'un figuier battu par la tempête. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Toutes les montagnes et les îles furent ébranlées. » Sont concernés également les versets 13 et 14 de ce 6e chapitre de l'Apocalypse. Pour aller plus loin, je vous invite à vous reporter au cours que j'ai fait l'an dernier sur l'Apocalypse. Donc il suffit ici de souligner la proximité entre ce texte qui concerne l'ouverture des sceaux dans l'Apocalypse de Jean et le verset 29 de Matthieu 24, de même que le parallèle est à faire entre les versets 30-31, toujours de Matthieu 24, et 2 Thessaloniciens 1:8 et 1 Thessaloniciens 4:16. Je vous y renvoie puisque nous en avons déjà parlé. Car lui-même le Seigneur, au signal donné par la voix de l'archange, et la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts qui sont en Christ ressusciteront en premier lieu. Ça, c'est dans la première épître de Saint Paul aux Thessaloniciens. Il y a donc, dans tout cet enseignement du Christ, comme d'ailleurs dans les épîtres aux Thessaloniciens, une invitation pressante à la vigilance, à veiller, à se tenir prêt. Ce sont des verbes et des expressions qui sont d'abord qui ont une force réelle et qui sont très présentes. Parce que le maître de maison, est-il dit, il ne sait pas quand le voleur va surgir dans la nuit. Donc il veille pour empêcher l'effraction. Eh bien, le Fils de l'homme, son surgissement est comparé à la venue d'un voleur dans la nuit. Voilà, donc invitation à la vigilance. Ça, c'est très important. Parce que l'enseignement eschatologique de Saint Paul a, je le rappelle, pour fondement une parole du Seigneur, ainsi qu'il le dit lui-même. Mais je rappelle également que cet enseignement, il a une visée pastorale, et non pas spéculative. Il n'y a point de spéculation sur les fins dernières dans ces épîtres, pas plus que dans les paroles du Seigneur lui-même, dans les trois synoptiques, avec les références que j'ai mentionnées. Ça a une visée d'avertissement. Ça a une visée d'avertissement à tous ceux qui vont être confrontés à de tels événements qui précéderont la venue du Seigneur, à tous ceux qui vont être confrontés à l'avènement du Seigneur et au jugement du monde. Ça a une visée d'avertissement. C'est-à-dire que il y a comme le thème sous-jacent du raccourcissement du temps et d'un appel pressant à la vigilance, à la veille, à la garde du cœur, au combat contre les passions. Il y a tous ces thèmes de l'ascétique orthodoxe qui sont sous-jacents à tout ça, que l'Église a développé pour en vue d'une finalité qui est celle d'être prêt pour la venue du Seigneur dans la gloire. Alors d'autre part, comme cet enseignement procède d'une parole du Seigneur, tout cet ensemble de textes est relié par un fil d'or. Hein. Il y a des convergences entre l'ensemble de ces textes, même si nous trouvons ça et là des accents différents. Eh bien, ces textes parlent de la même chose. Le vocabulaire est le même. Le vocabulaire utilisé, les expressions sont communes et elles servent toutes à décrire le jour eschatologique par excellence, c'est-à-dire le jour du Seigneur, le jour où le Seigneur vient. Alors, on peut récapituler quelques-unes de ces notions que nous avons vues tout au long de ce cours. Voilà, je retrouve les différents éléments. Nous avons vu que le jour eschatologique est à plusieurs désignations dans les épîtres pauliniennes. Il est appelé de différentes manières, mais ça renvoie toujours à la même signification. Le jour de notre Seigneur Jésus-Christ, dans la première aux Corinthiens. Le jour du Seigneur, dans les deux épîtres aux Thessaloniciens. Le jour du Seigneur Jésus, dans les deux Corinthiens. Le jour de Jésus-Christ, dans l'épître aux Philippiens. Son jour, donc celui du Fils de l'homme, en Luc 17. L'expression également, le jour le Fils de l'homme paraîtra, en Luc 17. La manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ, en 1 Corinthiens. Autre expression, lorsque le Seigneur Jésus paraîtra du ciel, en 2 Thessaloniciens. Et encore une dernière expression, devant notre Seigneur Jésus, lors de son avènement, en 1 Thessaloniciens. Donc, ce jour, évidemment, est décrit sous plusieurs désignations, mais c'est toujours la même réalité, c'est l'avènement dans la gloire, le second avènement, l'avènement dans la gloire du Seigneur Jésus-Christ et la consommation des siècles. Je rappelle également quatre termes très importants auxquels se réfèrent les auteurs du Nouveau Testament, s'agissant donc du retour du Christ. C'est un rappel, hein, puisque j'en avais déjà parlé. Epiphaneia, donc qui est lié à l'idée d'une lumière éblouissante, qui est liée à la gloire. Le Seigneur vient dans la gloire, 2 Timothée 1, Tite 2 et 3. L'épiphanéia se réfère à la fois à la première venue et à la seconde venue. Mais en 2 Timothée, comme je l'ai déjà dit, nous trouvons les trois termes majeurs relatifs à la seconde venue. 2 Timothée 4, 1, 8, et également en Tite 2, 13. Deuxième terme, très important, que nous avons vu aussi, là c'est encore c'est un rappel, parousia. C'est un terme qui nous renvoie à la présence, à la venue. C'est un terme qui est très très employé. En Matthieu 24, on le trouve à plusieurs reprises, en 1 Corinthiens 15, en 1 Thessaloniciens, en 2 Thessaloniciens, dans l'Épître de Saint Jacques, dans la deuxième à Pierre et dans la première à Jean. Troisième terme, apocalypsis, donc ça c'est un terme que nous connaissons bien, dévoilement, révélation, c'est le titre même d'ailleurs du dernier livre de l'Écriture sainte, l'Apocalypse de Saint Jean le théologien, et l'emploi de ce terme nous le retrouvons en Luc 17, en 1 Corinthiens, en 2 Thessaloniciens, et d'autres références sans doute à mentionner et à chercher. Autre terme, phanéro, qui signifie révéler, manifester, amener la lumière, et qui est à mettre en rapport aussi avec... Il y a deux contextes différents. Il est à mettre en rapport avec la première venue comme avec la seconde venue. Avec la première venue, on le trouve dans 1 Pierre 1, 20, 1 Jean 1, 2. C'est pas limitatif, hein, les références. Ou à la seconde venue, on le trouve dans le chapitre... auquel on se réfère ce jour, donc Matthieu 24, hein, c'est les versets apocalyptiques de l'évangile de Matthieu, en Colossiens 3, 4, en 1 Jean 2, 28, et un cinquième terme, la venue, erkomai, c'est le terme le plus courant employé pour le retour du Christ. On le trouve dans Matthieu. Matthieu 16. Dans les Actes. Premier chapitre. La première aux Corinthiens au chapitre 11. Et en Apocalypse, premier chapitre. Alors cherchez les références précisément. Prenez le texte grec et cherchez plus avant où se trouve ces termes par lesquels les auteurs du Nouveau Testament rendent compte du retour du Christ. Les événements, maintenant un petit point sur les événements avant la seconde venue, nous l'avons vu, nous avons étudié également cela en détail avec les épîtres pauliniennes. Je les cite pas forcément dans l'ordre d'ailleurs. La prédication, le témoignage de l'Évangile annoncé au monde entier, en Matthieu 24, en Marc 13. L'apostasie générale, l'avons vu tout à l'heure, donc un grand nombre succomberont, comme il est dit en Matthieu 24. Là, et nous l'avions vu précédemment en 1 Timothée 4, 2 Timothée 3 et 2 Thessaloniciens 2, l'apostasie générale, la manifestation du Fils de la perdition, de l'homme de l'iniquité. Ça, c'est aussi une thématique qui est empruntée à Daniel 7, versets 23-26, que l'on trouve donc en 2 Thessaloniciens chapitre 2. La disparition de ce qui le retient, en 2 Thessaloniciens 2, alors ça c'est une énigme qui est propre à saint Paul, dans la deuxième aux Thessaloniciens. Alors essayez d'aller à ce texte, 2 Thessaloniciens 2, versets 6-7, et de comprendre ce que signifie cette expression énigmatique. Le réveil d'Israël, qu'on trouve en Romains 11, mais qui fait appel à Zacharie 12, 10. Autant donc d'événements qui précéderont la seconde venue. Alors bien sûr, je rappelle également que à tout moment, tous ces versets apocalyptiques, et c'est normal, tous ces passages apocalyptiques du Nouveau Testament, contiennent des expressions à double entente, utilisent un symbolisme et des expressions à double entente, parce qu'il rend compte de réalités qui échappent largement à notre entendement. Donc ils nous les font pressentir à travers ces manières de parler des langages apocalyptiques et prophétiques que nous trouvons dans le Nouveau Testament. De la même manière, on a vu que il y a toujours en arrière-fond cette tension entre d'abord le retour à tout moment à l'improviste, comme cela a été souligné, et le fait que certains événements doivent préalablement avoir lieu dans l'histoire. Ça, saint Paul le dit très clairement aux Thessaloniciens. Il le dit, l'heure n'est pas encore venue parce que il y a un certain nombre d'événements qui doivent constituer le prélude à la venue du Fils de la perdition, de l'Antichristos, qui sera vaincu par le souffle puissant du Seigneur. Voilà. Il faut également remarquer que la venue est décrite sous forme d'images que nous retrouvons dans l'ensemble des textes que nous avons étudiés, mais même beaucoup plus largement dans l'Écriture, avec la sonnerie de la trompette, les anges qui entourent le roi des cieux qui vient pour établir le jugement divin et son règne, pour établir le royaume de Dieu en plénitude, pour rassembler les élus. La seconde venue du Christ aussi, c'est le rassemblement par le Christ des élus, de ceux qui lui appartiennent. Et nous retrouvons cette expression du rassemblement des élus en Matthieu 24 également. Et je terminerai encore par une dernière chose. C'est par deux choses. Quand saint Paul fait référence à la ruine soudaine qui les surprendra, hein, vous savez la citation que j'ai faite tout à l'heure sur la paix et la sécurité, la ruine soudaine qui les surprendra, c'est une métaphore du jugement de Dieu. Les douleurs de l'enfantement, on retrouve ça présent dans l'Ancien Testament, c'est une métaphore du jugement dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, cette expression des douleurs de l'enfantement annonce un âge nouveau. Je conclus en disant que tout cela, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, tout cela a pour but de monter la garde, d'être en veille, de ne pas être compté au nombre de ceux qui dorment. C'est ça que l'apôtre et le Seigneur lui-même dit dans l'Évangile, et l'apôtre dans ses épîtres, dans les parties apocalyptiques de ses épîtres. Parce que nous n'avons pas à connaître le temps spécifique de cette seconde venue, puisqu'il surgira comme un voleur au milieu de la nuit, comme il nous est dit. Néanmoins, nous avons à discerner, c'est très important ce terme, discerner les tendances, le cours de l'histoire, et nous devons être en veille, ne pas être comptés parmi ceux qui dorment. Hein, cette thématique de la veille, ne pas être parmi les dormants, elle est développée dans l'épître, dans les épîtres aux Thessaloniciens. Parce que quand Paul parle des dormants à propos de la question sur la résurrection qui est posée dans la première aux Thessaloniciens par les fidèles de cette église, évidemment, il parle de ceux qui dorment, donc dans le sommeil de la mort en attendant la résurrection. Mais les dormants, ça aussi ceux dont l'âme n'est pas en éveil, ne monte pas la garde, ne veille pas pour attendre le Seigneur. Vous savez, dans le récit de saint Matthieu, au chapitre 24, c'est suivi, et c'est pas du tout un hasard, par le récit des 10 vierges, hein, où la thématique de veiller, de monter la garde, de se tenir prêt, eh bien, est complètement présente. Donc, il faut, et c'est tout l'enseignement que saint Paul donne à propos de ces événements eschatologiques, il faut être éveillé, il faut veiller, il faut être vigilant, il faut être sobre. La sobriété de l'âme dont nous parlons dans la Divine Liturgie, c'est-à-dire renoncer à tout ce qui peut nous distraire de l'attente du Seigneur. Et pour ça, il faut se revêtir de l'armure spirituelle. Revêtons la foi et la charité pour cuirasse et pour casque l'espérance du salut, comme il est dit en Thessaloniciens, chapitre 5, verset 8. Donc ce thème de la vigilance, il est tout à fait fondamental, et il est, et j'en termine là, il est au cœur de cet enseignement eschatologique, celui du Seigneur et celui des apôtres, et en particulier de saint Paul que nous avons étudié pendant ce premier semestre. Parce que, je leur dis, la visée est pastorale et non pas spéculative. Les spéculations, d'ailleurs, sur les fins dernières, n'offrent aucun intérêt, ne sont que des voies de perdition, parce que, de toute façon, l'Écriture nous dit peu de choses là-dessus. Par contre, elle nous avertit sans cesse, d'être prêts de nous retourner vers le Seigneur, parce qu'il viendra pour le jugement du monde. Merci de votre attention.